une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
Pas juguler les réajustements périodiques du cash flow.
J'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Faut être un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SPJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Emmanuel Martin, professeur d'éco en prépa à Sarcelles, et cette semaine, je laisse la parole à Adrien Schwitter, journaliste au magazine Challenge, spécialisé dans la tech. Salut Adrien.
Salut Emmanuel.
Aujourd'hui, tu vas nous parler d'Airbnb, de Cygne Noir et de Licorne.
Tout à fait. Et promis, cet épisode n'est pas sponsorisé par 30 millions d'amis. Une petite devinette pour commencer. Quel est le lien entre Slack, Spotify, Doctolib, Backmarket, Sorare ou ManoMano ?
Ce sont des entreprises avec des noms qui sonnent bien, mais qui n'indiquent pas du tout ce qu'elles font.
C'est très juste, mais ce sont aussi des sociétés qui sont devenues des licornes. Le mot a gagné ses lettres de noblesse en quelques années, si bien qu'il est devenu un basique pour les discours économiques. Pourtant, le concept n'a rien d'évident. Mais alors, qu'est-ce que c'est une licorne ? C'est une entreprise valorisée plus d'un milliard d'euros ou de dollars très souvent. Et, depuis quelques années, elles sont sorties du bestiaire et des tapisseries où elles attendaient sagement depuis le Moyen-Âge. Désormais, plus besoin d'aller dans un musée ou dans un texte de l'Antiquité afin de trouver des licornes. Parler de licornes, c'est être cool. Désormais, parler de licornes, c'est incarner l'avenir.
Je veux saluer aujourd'hui la 25e licorne. C'est aussi l'atteinte de l'objectif que nous avions posé en septembre 2019, alors même que nous n'en comptions qu'une poignée. On nous disait que c'était impossible et qu'au fond, la Startup Nation, comme beaucoup ont dit, c'était du vent. La French Tech, ce n'est évidemment pas que les licornes, mais je les vois en quelque sorte comme des exemples, des modèles pour l'ensemble de l'écosystème. Derrière, il y a près de 20 000 startups qui, par leur impact, sont essentielles à notre économie.
Vous avez reconnu notre président. Pour Emmanuel Macron, depuis 2019, créer des licornes est devenu un métrique, ou un indicateur comme un autre en version française, qui permet de déterminer la bonne santé d'une économie, et, accessoirement, l'utilité de ses politiques économiques. Avant, dans l'ancien monde, vous aviez le taux de chômage, le PIB ou la croissance. C'était classique et ça ennuyait presque tout le monde, sauf les économistes bien sûr. Mais ça, c'était avant, c'était très 20e siècle.
Tu en as marre d'être à la mode ? À ta mode ! Deviens ringard !
Désormais, les ministres de l'économie ou du numérique jugent leur action en termes de licornes créées au cours d'un quinquennat. Et le président lui-même se fixe des objectifs. Le dernier en date sonne bien. Le président de la République a fixé l'objectif de 100 licornes françaises d'ici à 2030. Avec, si possible, 25 d'entre elles qui soient vertes. Dans la sphère économique, tout le monde sont fascinés par les licornes et leur valorisation qui font tourner les têtes. Pourtant, personne ne semble se demander à quoi elles servent. Est-ce bien d'avoir plein d'entreprises qui valent plusieurs milliards d'euros ? Est-ce que plus on a de licornes, plus une économie est performante ? N'est-ce pas un thermomètre qui mesure simplement quelque chose de totalement accessoire ? En bref, on va surtout se demander comment on calcule la valeur d'une entreprise. Et surtout, est-ce que c'est vraiment souhaitable de multiplier comme des petits pains des entreprises qui valent plus d'un milliard ? Pourquoi certaines entreprises valent 3 milliards ? Bon, avant de s'intéresser à la pertinence des licornes, pour bien être certain de ne pas perdre tout le monde en route, il faut commencer par la base. Et la base, quand on parle d'entreprises valorisées des milliards, c'est comment calcule-t-on la valeur d'une entreprise. Accrochez-vous. Sur le papier, ça a l'air compliqué. Et comme souvent, en réalité, c'est assez simple. Dites-vous qu'après, vous pourrez briller en société. Afin de m'éclairer, j'ai appelé Anaïs Hamelin, professeure des universités en sciences de gestion à Sciences Po Strasbourg et à l'Université de Strasbourg.
Alors, calculer la valeur d'une entreprise, on va avoir plusieurs méthodes. Dans la pratique, on va utiliser les différentes méthodes. Donc, la première méthode, en fait, c'est de se baser sur les flux de trésorerie générés par l'entreprise, qu'on appelle les cash flows. Donc, si vous voulez, les revenus, en quelque sorte, hein, que l'entreprise va générer dans le futur. Et donc, on va estimer, en fait, hein, les revenus générés dans le futur par l'entreprise, généralement sur la base des revenus qui sont actuellement générés.
Cela s'appelle la méthode d'évaluation de rendement. On regarde ce que l'entreprise gagne tous les mois ou chaque année et on en déduit avec des prévisions crédibles ce qu'elle peut gagner les années suivantes. Mais ce n'est pas la seule source pour déterminer combien vaut une entreprise.
Ce taux sera d'autant plus important que l'entreprise est risquée en fait. Et ça va nous donner une estimation de la valeur de l'entreprise. L'autre méthode, ça va être par comparaison. On va trouver un groupe d'entreprises relativement comparables en termes de secteur d'activité à l'entreprise qu'on cherche à évaluer. Et pour ces entreprises comparables, on va chercher des entreprises comparables pour lesquelles on a une valeur de marché de ces entreprises. Donc, comment on peut avoir une valeur de marché pour une entreprise? Bah, ça peut être une entreprise qui s'est introduite en bourse. Dans ce cas-là, on peut estimer la valeur de l'entreprise à partir du prix de ses actions. Ou on peut avoir une valeur de marché de l'entreprise, à l'occasion, effectivement, d'une transaction sur cette entreprise, qui peut être le cas lorsqu'il y a eu une fusion-acquisition, par exemple, hein. On peut prendre comme approximation de la valeur de marché ici bah, le prix qu'a payé l'entreprise acquéreuse ou lorsqu'il y a des levées de fonds, par exemple auprès de fonds de capital investissement.
En réalité, ces méthodes marchent plutôt pas mal si vous avez une entreprise dite classique. Une boucherie, une blanchisserie ou même une boulangerie. Mais pour une entreprise qui prétend souvent révolutionner le monde, c'est souvent plus compliqué.
En fait, effectivement, ces deux méthodes d'évaluation pour les licornes et plus généralement en fait pour les startups, elles pêchent un peu. Bah, parce que la méthode des flux de trésorerie, bah, il faut que les entreprises génèrent des flux de trésorerie, ce qui est rarement le cas pour les startups, encore plus pour les licornes hein, qui sont généralement dans ce qu'on appelle cette vallée de la mort du cash, hein, donc qui pour l'instant développent leurs produits, ont des fortes dépenses, des fois en R&D, et ne génèrent pas de cash, voire ont des flux de trésorerie négatifs. Donc là, la méthode, bien évidemment, par les flux de trésorerie ne fonctionne pas. Et la méthode par comparaison atteint ses limites parce que souvent, bah, ces entreprises ont pour caractéristique d'être disruptives, hein, et de proposer soit un modèle d'affaires innovant, soit des produits innovants. Donc la comparaison va être très, très compliquée.
Grosso modo, les méthodes traditionnelles ne marchent pas pour les startups qui rêvent de valoir cher un jour. Alors comment fait-on quand il y a des levées de fonds pour déterminer combien valent ces entreprises? C'est là que ça devient vraiment intéressant. En réalité, c'est beaucoup plus flou. Et comme disait Martine Aubry...
Ma grand-mère disait quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup.
Pour la professeure en sciences de gestion, c'est presque du storytelling qu'on achète. En somme, une belle histoire.
Donc finalement, bah, se pose la question de qu'est-ce qu'évalue ou qu'est-ce qu'achètent les investisseurs dans ces cas. Est-ce qu'au final, ils n'achètent pas simplement une histoire? Parce que finalement, ils investissent... dans une histoire qu'on essaye de leur vendre à travers le potentiel de développement de ces entreprises. Alors, c'est pas forcément un problème parce que les investisseurs en capital investissement, s'ils ont un portefeuille d'investissement relativement diversifié, bah, ils peuvent se permettre d'investir dans des histoires qui ne vont pas fonctionner à condition que quelques-unes fonctionnent. C'est vrai que dans le cas des licornes, quand ça fonctionne, ça peut rapporter très gros. Effectivement, ça peut être une stratégie d'investissement certes risquée, mais dont on va limiter le risque par diversification. Donc l'idée qu'on va pas mettre tous les œufs dans le même panier.
Bon, maintenant vous savez tous calculer avec plus ou moins de précision la valeur d'une entreprise. Depuis quand parle-t-on de licorne ?
L'émergence du mot est attribuée à l'investisseur américaine Aileen Lee en 2013. Très rapidement, l'expression est devenue à la mode dans la Silicon Valley, notamment chez les investisseurs en private equity, en version française en capital investissement. Ce sont des sociétés qui prennent plus de risques que les autres et investissent dans des startups qui viennent de se créer et promettent une croissance importante. L'investisseur, lui, entend profiter de cela pour faire une plus-value, en revendant sa participation après quelques années. De 4 à 7 ans en général. Jusqu'au début de la guerre en Ukraine, les licornes se multipliaient aussi bien aux États-Unis, en Europe qu'en Chine. Mais, depuis plus d'un an, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi ? Car une entreprise qui veut se développer vite se moque souvent d'être rentable, de gagner de l'argent. Elle dépense beaucoup d'argent pour croître rapidement et dépasser ses concurrents.
Dans ma tête, je me dis toujours que je suis le meilleur, parce que comme ça, tu te donnes pas de limites et tu essayes de donner le meilleur de toi-même.
Sauf que, si les banques, à cause du contexte économique, arrêtent de leur prêter de l'argent, et que, dans le même temps, les investisseurs n'en ont plus à placer, alors c'est très compliqué de continuer à perdre de l'argent. C'est le risque du dépôt de bilan si on n'arrive pas à trouver des fonds rapidement. La bulle créée risque de dégonfler d'un coup.
Si on prend l'exemple de Doctolib, hein, qui est la plus grosse licorne française, elle est effectivement valorisée à quasiment 6 milliards d'euros. Donc c'est la licorne française la plus valorisée. Mais au jour d'aujourd'hui, Doctolib n'est pas rentable et ne doit sa survie qu'au fait qu'elle est capable de lever des fonds. Du coup, cette question de viabilité du modèle économique pose aussi en toile de fond la question d'une crainte d'une bulle spéculative. Effectivement, est-ce que les licornes atteignent ces valeurs importantes parce que elles ont un potentiel de création de valeur qui va peut-être se dévoiler dans le futur, ou est-ce que au final ces niveaux de valorisation ne sont pas que le symptôme d'une bulle spéculative qui risque d'être néfaste du coup si elle venait à éclater?
Spoiler alerte. Les économistes se sont rendus compte que la valeur réelle d'une licorne n'était pas celle souvent affichée.
Mais oui, Keynes, dans La Théorie Générale, en 1936, ne disait déjà pas autre chose, je cite.
Les hommes d'affaires jouent un jeu mixte d'adresse et de hasard, dont les résultats moyens pour les joueurs ne sont pas connus de ceux qui prennent une main. Si la nature humaine n'avait pas le goût du risque, si elle n'éprouvait aucune satisfaction, autre que pécuniaire, à construire une usine ou un chemin de fer, à exploiter une mine ou une ferme, les seuls investissements suscités par un calcul froidement établi ne prendraient sans doute pas une grande extension.
En deux mots, la valeur d'une entreprise n'a pas grand-chose à voir avec un calcul rationnel.
Dans une note en 2020, les économistes Suraj Kotha, Seowon Joseph Shin et Greg Fisher font une remarque étonnante. Ils ont analysé les valeurs des licornes et ils se sont rendus compte qu'il y a très peu d'entreprises qui valent entre 800 millions et 1 milliard. Un hasard bien étonnant. Il conclut donc que de nombreuses entreprises qui valent pile 1 milliard d'euros ou de dollars ont une valeur réelle bien différente. Les investisseurs et les fondateurs de ces entreprises s'arrangent afin d'obtenir le statut de licorne, car ils bénéficient en vrai à tout le monde. Le fondateur de Slack, Stewart Butterfield, a reconnu en 2015 que le fait d'être devenu une licorne avait eu un effet psychologique de seuil, autant sur les clients, les employés, que les médias. Anaïs Hamelin ajoute que de nombreuses licornes seraient en réalité survalorisées, et elle exagère à peine.
Alors, par exemple, dans un article de Zebur Aleph en 2020, l'auteur a évalué effectivement qu'en moyenne, on avait une surévaluation de l'ordre de 50% des licornes. Et d'autres indices de cette potentielle surévaluation, c'est que quand certaines licornes entrent en bourse, en fait, on observe des niveaux de performance relativement limités pour ces licornes qui s'introduisent en bourse.
Devenir une licorne, c'est donc une sorte de prophétie autoréalisatrice. Si aux yeux des autres, vous êtes une société à forte croissance, peu importe que ça soit réel, cette annonce va provoquer l'effet recherché.
C'est effectivement cet effet de réputation, de notoriété, qui au-delà de l'accès à une source de financement, va permettre aussi généralement de favoriser la croissance par un effet marketing, en fait, simplement, ou de visibilité auprès du public. Et on a les mêmes effets au niveau des licornes. Et alors, au niveau des licornes, j'ai envie de dire, cet effet, il est double. Il est pour l'entreprise, pour la licorne en tant que telle, qui, en obtenant ce statut, va être davantage visible, va être davantage médiatisé. Mais c'est aussi un effet pour les fonds qui investissent dans ces licornes, parce que l'obtention du statut de licorne par l'entreprise va favoriser par la suite les levées de fonds. Et l'intérêt de l'investisseur, c'est effectivement qu'il y ait des levées de fonds par la suite, ce qui, lui, va lui permettre de sortir du capital de la licorne et de sortir par le haut, c'est-à-dire en revendant plus cher ses parts que le prix auquel il les avait achetées. Donc ça, c'est relativement nouveau. C'est un phénomène peut-être un peu moins marqué dans les introductions en bourse.
Bon, on voit bien que ces sociétés qui valent des milliards sont survalorisées si on adopte un point de vue un peu rationnel. Alors, pourquoi tout le monde joue le jeu, y compris les responsables politiques?
La situation ne tient que si tous les acteurs en question ont un intérêt direct à cette survalorisation, aussi bien les investisseurs que les fondateurs de la start-up. Comme les bonnes nouvelles sur le front économique ne courent pas les rues, il est aussi facile pour certaines femmes ou hommes politiques ensuite de se rallier à des levées de fonds records. Ça leur permet de se rassurer sur leur impact très positif sur l'économie, même s'ils n'y sont pas pour grand-chose. Dans une telle situation, les entrepreneurs peuvent parfois tout tenter pour faire croire à leur success story. Ces dernières années, deux affaires de fraude ont marqué les esprits.
Voici l'homme du plus grand scandale financier d'après-guerre en Allemagne, Marcus Braun, ancien patron de Wirecard. Ce matin, il n'a eu que quelques mètres à parcourir pour l'ouverture du procès fleuve qui le concerne au premier chef, dans la salle sécurisée de la prison où il est détenu depuis la faillite retentissante de sa société il y a 2 ans et demi.
C'était une des fiertés de l'Allemagne, une entreprise créée en 99 à Munich, une licorne bancaire des fintech. Sauf qu'en 2020, patatras. Suite à des enquêtes du Financial Times, on se rend compte que la banque a maquillé ses comptes. Le bilan de l'entreprise était gonflé de 1,9 milliard d'euros. La banque, alors cotée en Allemagne, dépose le bilan quelques semaines plus tard.
À la boulette.
Outre-Atlantique, c'est l'affaire Theranos qui a défrayé la chronique. Valorisée en 2014 à 9 milliards de dollars, Theranos était présentée comme la licorne qui allait révolutionner les prises de sang. Et puis, tout s'est effondré.
Le procès a tenu en haleine toute l'Amérique, car l'histoire d'Elizabeth Holmes a les apparences d'une success story. À 19 ans seulement, la jeune femme fonde Theranos, la start-up qui promet des tests plus rapides et moins chers que les laboratoires pharmaceutiques. Elle parvient en quelques années seulement à lever des fonds auprès de prestigieux investisseurs. Très vite, l'entreprise est valorisée à près de 10 milliards de dollars et sa fortune personnelle estimée à près de 4 milliards. Mais en 2015, le Wall Street Journal découvre le poteau rose. La fabuleuse machine promise par Theranos n'a jamais fonctionné.
La fondatrice de Theranos, Elizabeth Holmes, est ainsi condamnée en fin d'année 2022 à 11 années de prison. Elle a menti afin de rassurer les investisseurs et réaliser de nouvelles larges levées de fonds. En 2015, son entreprise est une belle licorne, valorisée près de 9 milliards de dollars. Pas loin d'une décacorne, une entreprise valorisée plus de 10 milliards. L'entreprise fermera et licenciera ses salariés en fin d'année 2016. Même si les affaires de fraude demeurent rares, le système même de levées importantes et de valorisation excessive rend possible ce type d'arnaque. Tant que les entreprises ne gagnent pas d'argent et ne recherchent que la croissance ultra rapide, la situation peut parfois dégénérer. Reste à savoir si les entreprises valorisées des milliards sont un bon critère afin de mesurer la santé d'une économie.
C'est vrai ça. Elles créent des emplois les licornes ? Elles payent beaucoup d'impôts ?
Eh bien non, pas vraiment. Une société qui ne gagne pas d'argent, dont le résultat chaque année n'est pas positif, ne va pas payer d'impôts sur les sociétés. Et le but même d'une licorne n'est pas la rentabilité, mais de gagner plus de parts de marché face à ses concurrents. De grandir vite. Et parfois de mourir vite. Selon Anaïs Hamelin, leur besoin perpétuel de financement peut nuire en réalité aux autres acteurs économiques.
Tous les fonds qui vont vers les licornes ne vont pas vers d'autres entreprises dans l'économie. Les licornes, ça représente à peu près 1% des entreprises qui reçoivent des fonds de capital investissement, et sachant que les entreprises qui sont financées par capital investissement sont déjà ultra minoritaires dans la population des entreprises. Or, en 2018, dans le top 10 des licornes au niveau mondial, ont reçu 15% des fonds alloués par les fonds de capital investissement dans le monde. Donc, en fait, avec ce phénomène des licornes, on a une concentration de l'investissement dans quelques entreprises. Et bien sûr, ça pose la question de difficulté d'accès au financement pour toutes les autres formes d'entreprises qui peuvent elles aussi être créatrices de valeur. Donc, en finançant les licornes, effectivement, on assèche, bien évidemment, le financement pour les autres.
Surtout, de nombreuses licornes ont la promesse de disrupter un secteur. Doctolib avec la santé, Backmarket avec la vente de téléphones reconditionnés ou même Uber avec les chauffeurs de taxi. On crée des entreprises nouvelles qui créent des perturbations dans un secteur établi qui, lui, gagne souvent de l'argent et paye des impôts. Est-ce que le bilan n'est pas négatif au final ? En voulant améliorer la situation pour l'utilisateur à court terme, ne crée-t-on pas une moins-value dans le même temps pour l'économie d'un pays ?
Effectivement, là, on est aussi dans des dynamiques un peu schumpeteriennes, où finalement, on a une création, une destruction créative plutôt. Ça demande peut-être un peu plus de recul. Donc, effectivement, à court terme, on a une perte de valeur pour l'ancien secteur, mais ça peut être pour à long terme, effectivement, créer plus de valeur. Mais là, la principale inquiétude, ça va être pour qui on va créer. Alors, déjà, est-ce que ces licornes vont vraiment être capables de créer de la valeur pour elles-mêmes ? Et ensuite, la question du partage de cette valeur. Et effectivement, avec ces phénomènes de gagnant-prend-tout et d'effet de réseau, et donc cette forte concentration, voire ces quasi-monopoles, il y a quand même des craintes sur le fait que la valeur soit avant tout accaparée, en tout cas par les licornes, et pas forcément par les consommateurs.
Ainsi, si Airbnb se retrouve tout seul sur la réservation d'appartements de tourisme, ou Uber pour réserver une course, les entreprises qui peuvent créer de la valeur pour le consommateur peuvent, par la suite, se constituer des monopoles, ou oligopoles s'ils sont plusieurs, et ainsi nuire in fine aux consommateurs et à l'économie. Surtout, les économistes se posent la question du rôle politique dans la naissance des licornes. Est-ce qu'il faut un peu forcer artificiellement la création d'entreprises valorisées des milliards, au risque que celles-ci ne soient pas vraiment viables ?
Certains auteurs, comme Aldrich et Rueff, parlent de signes noirs. En fait, finalement, les licornes, c'est un événement qui, d'un point de vue statistique, est très rare dans l'économie. C'est un modèle très particulier de croissance des entreprises qui s'applique qu'à certains cas. Et donc, il ne faut pas oublier cet aspect-là, en fait, quand on déploie des politiques publiques. Et surtout, ne pas faire l'erreur de penser que toutes les entreprises qui se créent sont des licornes en devenir.
Bon, pour résumer, les licornes font rêver beaucoup de monde. Mais personne ne sait vraiment si elles sont bénéfiques à court terme pour l'économie d'un pays. D'ailleurs, personne ne sait non plus si les multiplier, de façon plus ou moins artificielle, est une bonne chose en soi. Elles sont juste bénéfiques aux fondateurs et aux investisseurs qui ont la promesse de réaliser d'importantes opérations financières. Aux consommateurs aussi, parfois. Et aux femmes ou hommes politiques qui peuvent, comme lors d'un succès sportif, prendre une partie de la réussite pour eux.
Merci Adrien pour cet épisode au cœur de la Startup Nation. Désormais, quand vous entendrez parler de licorne, vous saurez un peu plus de quoi on parle. Et n'hésitez pas à glisser que vous êtes plutôt décacorne que simple licorne. Laissez un petit temps de pause et regardez l'effet produit sur l'auditoire. Avant de conclure qu'en réalité, tout cela n'est qu'une question de signes noirs. Si vous avez aimé cet épisode et Splash de manière générale, n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles sur les plateformes Apple et Spotify, ça nous aide à être mieux référencés. À lundi prochain.
Splash est un podcast de nouvelles écoutes, écrit et animé par moi, Adrien Schwitter, en compagnie d'Emmanuel Martin. Prise de son, montage et mixage, Adrien Beccaria à l'Arrière Boutique Studio. Réalisé par Adrien Beccaria et Mathilde Jeunin. Produit par Julien Neuville. Directrice générale adjointe, Nora Issem. Directrice des productions, Marion Gourdon. Directrice artistique, Aurore Mailleux. Chargée de production, Mathilde Jeunin, avec l'aide de Nella Acmi.